Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'ai une excellente suggestion pour vous pour la fin de semaine. C'est d'aller écouter sur le site de Cube Radio dans la section balado la toute nouvelle édition du balado Devine qui vient souper en version pandémie évidemment. Et cette toute nouvelle édition qui est disponible maintenant met en vedette André-Philippe Gagnon et Jeff Boudreau qui sont tous les deux venus luncher avec mon mari Richard Martineau et moi. Ça a donné lieu à plein de discussions intéressantes et entre autres à cette imitation ou cette leçon d'imitation d'André-Philippe Gagnon.
Moi, c'est Sympathy for the Devil. C'est Pleased to meet you, hope you guessed my name. C'est fait que
Please allow me.
Ça, c'est beaucoup 60 quelques ce Mick Jagger. Là, c'est, Please allow me. Ça, c'est un peu plus récent comme de Jagger. Même chose pour d'autres voix. On s'en parlait un petit peu l'autre jour parce qu'il est comme... Il y a une question d'hormones là-dedans. Tu sais, le Frank Sinatra tout jeune, puis ensuite le main event au milieu de ta carrière, puis le son de sa voix dans les duets qu'il a fait avec Bono, par exemple. I've got you under my skin. I've got you under my skin. Il y a beaucoup plus de ce son-là comme start spreading the news. Comme whoops, il y en a
moins. Mais les gens veulent l'entendre dans son prime.
Ouais.
Non?
Ah, alors ça, c'est vraiment super intéressant. Puis vous allez en avoir plein d'autres comme ça de leçons d'imitation dans cette entrevue. Très intéressant aussi avec Jeff Boudreau. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Alors, quand j'ai entendu André-Philippe Gagnon faire son imitation de Mick Jagger en variant le ton, j'ai poussé un très amusé. Ben, voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a une chose qui est claire depuis le début de la pandémie, c'est que les cas de détresse ou de problèmes de santé mentale ou juste un petit blues, les petits coups de blues, tous ces cas-là ont vraiment augmenté. Personnellement, je connais personne dans mon entourage qui a pas au moins eu des passages à vide, mais c'est pas tout le monde qui en parle et qui en parle publiquement. C'est pour ça que je suis vraiment très fière de cette collègue qui est journaliste au Journal de Montréal et qui travaille pour différentes plateformes de Québécois, Elisabeth Ménard, qui est mon ancienne patronne, qui a pris la plume pour raconter ce qui lui est arrivé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Elisabeth, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Elisabeth, je te trouve très courageuse et tu fais œuvre utile, pour reprendre une expression populaire, avec ton texte qui est publié sur le site du 24heures.ca et qui s'intitule « J'avais honte, mais ça finit bien, promis ». Alors, c'est un titre très accrocheur. De quoi avais-tu honte, Elisabeth?
Ah, c'est une grande question. Ça va être difficile de répondre à ça. J'avais honte... Je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais honte parce que j'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus à me concentrer. J'arrivais plus à écrire. Et puis, écrire, c'est mon métier. C'est, d'ailleurs, je pense, mon seul réel talent. Et je n'arrivais plus à le faire. Et j'étais pas capable de m'expliquer pourquoi. Et j'avais l'impression d'être paresseuse. Je me suis dit, coudonc, est-ce que c'est juste parce que je n'ai plus envie de travailler? Et j'ai été vraiment criblée de honte et de culpabilité de ne plus être capable d'exercer mon métier, de ne plus avoir envie de rien. Alors que, comme je l'explique bien dans mon texte, je suis quelqu'un d'assez privilégié. Je suis bien entourée, j'ai un toit sur la tête, j'ai pas perdu mes revenus avec la pandémie, j'ai pas été évincée de mon appartement, j'ai pas perdu mon emploi, j'ai accès à des avantages sociaux. Tout le monde est en santé autour de moi, personne n'est mort de la COVID, donc pourquoi je vais mal? J'avais honte d'aller mal.
Ça, c'est très important, ce que tu viens de mentionner, Elisabeth, parce que tout le monde peut dire, bon, ben, c'est évident que quelqu'un qui a, par exemple, perdu un proche à la COVID, c'est normal, entre guillemets, d'être déprimé. Quelqu'un qui a perdu sa job à cause de la COVID ou qui a vu ses revenus diminuer, enfin, pour la COVID, on dit, ben, c'est normal, entre guillemets, d'être déprimé. Donc, toi, vu que tu ne correspondais à aucune de ces catégories-là, tu te sentais privilégié, mais ça n'empêche pas que tu ressentais une sorte de vide. Et la façon dont tu le décris, c'est comme un espèce de brouillard dans ta tête, comme une l'impression un petit peu de naviguer dans le vide.
C'est exactement ça. C'est bien dit, Sophie. C'est vraiment, j'arrivais pas à mettre les mots sur qu'est-ce qui m'arrivait. Est-ce que j'étais déprimée? Pas certaine parce que je passais pas mes journées à pleurer, j'étais pas particulièrement triste, j'avais juste pas de bonheur. Puis je comprenais pas pourquoi. Et puis c'est vraiment quand il y a eu des manifestations plus physiques que je me suis inquiétée. Je dis physique en fait quand je me suis rendu compte que je commençais à faire des fautes dans les textes que j'écrivais alors que vraiment c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Là, je me suis inquiétée. Là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Puis j'ai appelé mon médecin, en fait.
Et ton médecin, toi, tu te disais, bon, ben, c'est soit une dépression, soit un burn-out. Et là, ton médecin te dit quoi quand tu l'appelles? D'abord, t'es chanceuse de pouvoir parler à un médecin assez rapidement, là. Au Québec, en 2021, là, je te trouve chanceuse, mais bon.
Oui, ça c'est un autre point intéressant. Je vais répondre à ta question, mais je suis très consciente que j'ai aussi le privilège d'avoir accès à un médecin de famille qui me connaît bien, qui suit toute ma famille depuis longtemps, et puis j'ai été capable d'avoir un rendez-vous dans la journée, ce qui est extraordinaire. Donc oui, j'ai beaucoup de chance. Mon médecin, donc le pour répondre à ta question, le diagnostic premier, ça a été trouble d'adaptation avec humeur mixte. Et là, à la base, je savais pas trop ce que ça voulait dire, parce qu'on s'entend l'entretien, là, ça s'est fait super rapidement, ça s'est fait au téléphone, c'est très froid, t'es là au téléphone, puis je pleurais un peu, puis je disais, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à travailler, puis là, ben, arrête de travailler, mais tu vois même pas quelqu'un en face, hein, parce qu'à cause de la COVID, on a préféré, on a fait l'entretien, j'étais assise dans mon auto dans le stationnement. Donc, trouble d'adaptation avec humeur mixte, ce que ça veut dire, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que non, c'était pas une dépression ni un burn-out. C'était vraiment un trouble d'adaptation, une difficulté à m'adapter à des événements nouveaux ou difficiles, la pandémie. Donc,
en fait, c'est particulier parce que ça s'appelle la COVID et un sentiment que beaucoup de gens ont depuis le début, c'est ce sentiment de vide. Puis je veux pas faire de l'analyse psychanalytique à cinq scènes, mais je trouve que ce mot-là, le vide ou l'impression de patauger dans le beurre, ça décrit bien ce que beaucoup de gens ont ressenti. Puis je t'en parle, Elisabeth, parce que bon, on se connaît, t'as été ma patronne pendant longtemps au Journal de Montréal. Et je peux te le dire, je peux le dire publiquement aujourd'hui, c'est un sentiment que j'ai ressenti à plusieurs reprises au cours des derniers mois, puis je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent, Elisabeth, qui, sous une forme ou une autre, ont ressenti cette espèce de patente-là, on sait pas trop c'est quoi, c'est pas vraiment une dépression, c'est pas nécessairement des pleurs, mais c'est juste, on a l'impression que notre cerveau, il y a quelqu'un qui est venu jouer dedans, puis qu'on n'a plus la maîtrise de ce qu'on fait d'habitude.
En fait, je trouve la personne qui a le mieux décrit ce sentiment-là, c'est le psychologue américain Adam Grant. Dans son texte du New York Times, il y a environ deux semaines, il a publié un texte sur ce qu'il appelle la langueur, le languishing en anglais. Mm-hmm. C'est ce sentiment justement de vide et de stagnation. Puis moi, quand ça a été publié, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, wow, mais c'est ça! Waouh, je suis pas seule. C'est vraiment. Quand la
COVID, c'est pour ça que tu as écrit ton texte. C'est pour ça aussi que tu as écrit ton texte.
C'est parce que, en fait, en commençant à en parler un petit peu plus autour de moi, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas seule et qu'en fait, 9 fois sur 10, on me disait c'est pareil pour moi. Je me sens pareil. Donc ça, je me suis dit, ben peut-être que je pourrais, comme tu dis, faire œuvre utile et en parler plus publiquement pour lancer le message que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je me sens comme ça. Puis Lâchez pas parce que ça a une fin qui va arriver plus tôt que tard, je l'espère.
Oui.
oui.
Mais toi, tu as eu la chance, puis je tiens à le souligner, parce que bon, toi et moi, on a beau travailler pour la même entreprise, on n'a pas le même statut, donc toi, tu es une permanente, donc tu as pu te mettre en arrêt de travail. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont des pigistes, comme moi, et travailleurs autonomes, soit à la tête de leur propre entreprise, ou simplement travaillent pour des compagnies où ils n'ont pas justement droit à ça, ou travaillent à leur propre pour leur propre entreprise. Donc, tu as eu du temps, tu as pu prendre du temps pour toi. Ça t'a pris combien de temps, tu dirais, avant de commencer à reprendre le dessus sur ton sentiment donc de languishing, là, de langueur? Ouais.
Je dirais que c'est vraiment reprendre le dessus, là, ça s'est fait après mon retour au travail, ça s'est fait tout récemment. Oui. C'est un work in progress, hein. C'est quelque chose qui je suis revenue au travail premièrement parce qu'au niveau de l'énergie, je me sentais quand même mieux. J'ai eu de la médication pour m'aider là-dessus. Puis parce que fallait bien que je revienne au travail aussi, que je me disais
on s'ennuyait de toi
éternellement comme ça. puis c'est vraiment je dirais les premières semaines, j'ai fait un retour progressif. Première semaine, j'étais presque paniquée. Et puis, tranquillement, pas vite. En fait, ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été la réaction de mes collègues patrons de mon employeur. Mmh. J'ai la très grande chance d'avoir des patrons qui ont compris, qui ont été très compréhensifs face à la situation. Puis, ça m'a beaucoup aidée à déculpabiliser puis à faire un retour en douceur. Puis ça, c'est hyper important, puis c'est vraiment un message que je veux lancer, c'est que on le lit partout, là, que bon, les burn-out, la santé mentale, c'est difficile en ce moment, mais les employeurs ont vraiment un travail à faire là-dessus pour être compréhensifs envers leurs employés. Le télétravail avec les enfants à la maison, je le sais, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui est à la maison chaque fois qu'il coule du nez, c'est l'enfer. C'est l'enfer, puis il faut que les employeurs comprennent que leurs employés font face à des situations extrêmement difficiles qui ne sont pas dans un contexte où ils peuvent performer. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils donnent le même rendement qu'avant la pandémie, je pense.
Oui, ça c'est très important, puis je me rappelle d'ailleurs un texte que tu avais écrit, il y avait même une photo où on te voyait comme dans une sorte de placard à balai quasiment, puis tu racontais que ton fils qui était tout petit, il comprenait pas lui pourquoi maman était là, mais elle n'était pas là, c'est-à-dire que t'étais là physiquement, mais tu ne pouvais pas t'occuper de lui, puis c'est déchirant parce que, toi t'en as un, il y a des gens qui en ont 2, 3, 4, et c'est extrêmement difficile. Je veux revenir sur un mot que tu as utilisé, Elisabeth, c'est le mot culpabilité et je veux pas faire, encore une fois, de la psychologie à Saint-Saëns, mais quand on est une femme, on a tendance, en général, à être très familière avec ce sentiment-là de culpabilité, a fortiori quand on est une maman, puis tu sais, c'est la fête des mères dimanche, on va avoir sûrement droit à des petits colliers en macaroni, mais c'est bien le fun, mais vient avec la maternité, quand t'expulses le placenta, vient aussi très souvent un sentiment de culpabilité. Est-ce que toi, à un moment donné, tu te sentais coupable, par exemple, de ne pas être capable de prendre soin de ton petit gars aussi bien que tu aurais le voulu parce que tu étais envahie par ce sentiment de langueur?
Ah, mais tellement, là! Puis tu le dis bien, là, je pense que le jour où j'ai accouché, la culpabilité est arrivée avec l'enfant. C'est vraiment frappant. Puis oui, il y a plein de choses par rapport à l'éducation de mon fils en ce moment avec la pandémie dont je me sens coupable. Quand on est pogné pour le garder à la maison pendant une semaine parce qu'il a un rhume, mais qu'on peut pas s'absenter du travail parce qu'à un moment donné, on a une hypothèque à payer, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la télé. Puis ça, j'haïs ça. Mon fils commence à me demander le téléphone, commence à faire des crises pour avoir le téléphone ou la télé, alors qu'avant d'avoir un enfant, je m'étais dit jamais. Mais on est dans une situation où les gens qui ont des enfants le savent, là, travailler avec un enfant de 2 ans et demi, c'est impossible. Ouais. Il demande, puis en plus, c'est enfant unique.
Oui, oui. Puis en plus, il est, bon, c'est ça, 2 ans et demi, là, c'est les Terrible Twos, puis après, ça va être les Horrible Three. Mais compte-toi chanceuse d'une certaine façon, ma belle Elisabeth, parce que quand il va être ado, ça va être les jeux vidéo, donc...
ouais. Bon, c'est une autre paire de manches.
Une autre paire de manches. Écoute, je veux revenir parce que t'es une femme de mots. Bon, t'es journaliste, c'est ton métier, c'est d'écrire. Je veux réfléchir avec toi à voix haute, Elisabeth, à l'importance de mettre des mots sur ce qu'on ressent et l'importance, quand on écrit un texte comme celui que tu as écrit, l'impact que ça va avoir sur les gens qui vont le lire. Qu'est-ce que tu souhaites avec la publication de ce texte-là?
À la base, vraiment, ce que je souhaite, c'est que les gens sachent qu'ils sont pas seuls à se sentir comme ça. Parce que je pense que ça enlève une couche de culpabilité. Moi, je suis partie de mon expérience personnelle, puis j'ai décidé d'en parler publiquement, pas parce que je pensais que c'était passionnant, mais vraiment parce que je me suis dit, je pense que il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Puis moi, si j'avais lu ça, je pense que je me serais sentie moins seule aussi. Puis c'est aussi ça, j'ai lu sur les réseaux sociaux moi je suivais Juliette Bélanger qui est une productrice de contenu qui parle beaucoup de santé mentale. Il y a eu une publication en particulier où elle parlait de la baisse de motivation, puis que c'était normal de ressentir ça parce que c'était une réaction à une adaptation rapide et forcée à la pandémie. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a comme « Ah, OK, c'est normal, je suis pas seule. » Puis c'était le but de mon texte, c'était d'envoyer un message aux gens puis de leur dire, même si vous êtes pas dans la rue, même si vous êtes pas parmi les gens les plus vulnérables, ça se peut que vous aussi, vous vous sentiez mal. Ça se peut que vous aussi, vous ayez vos propres difficultés, vos propres souffrances. Puis la première des choses à faire pour aller mieux, c'est d'accepter qu'on se sent comme ça, que c'est normal, et de pas se sentir coupable de ça. Puis une fois qu'on se débarrasse, une fois qu'on arrête d'être en lutte contre nous-mêmes, contre nos propres émotions, on peut, à ce moment-là, explorer c'est quoi nos zones de pouvoir pour aller mieux.
Tout à fait. Écoute, je suis très contente. De toute façon, le titre de ton texte le dit bien. Ça finit bien, promis. En effet, ton histoire finit bien. Puis c'est important aussi d'envoyer ce message d'espoir, comme quoi, ben, il y a une lumière au bout du tunnel. De toute façon, on le voit aussi avec la vaccination, ça va mieux. Un des éléments de cette pandémie, c'est que on a la difficulté à se projeter. Or, l'être humain a besoin de ça. On a besoin de se projeter en disant, dans un mois, je vais pouvoir aller manger au restaurant avec des amis. Dans 2 mois, je vais pouvoir voyager. Dans 6 mois, je vais pouvoir prendre ma mère dans ses bras. Et là, ce que la pandémie a provoqué, c'est cette absence de projection. Donc, est-ce que tu penses que, justement, le fait que les nouvelles soient bonnes, que la vaccination avance vraiment très rapidement, que ça peut contribuer à un mieux-être, justement, sur les gens qui sont pognés avec cette langueur?
Définitivement. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain, parce que ce qu'on a appris, justement, avec la pandémie, c'est qu'on n'est probablement pas au bout de nos surprises. En ce moment, il y a de l'espoir, puis il faut se permettre cet espoir-là. Mais c'est sûr que moi, je veux pas être déprimante, mais j'ai des moments où je me dis, mon Dieu, mais on s'en sortira jamais. Là, je voyais cette semaine des nouvelles études qui concluent que les vaccins seraient très efficaces contre les nouveaux variants. Je me suis réjouie. Moi, je me fais des favoris sur mon ordinateur avec des bonnes nouvelles.
Quelle bonne idée! Ah, c'est bon!
Des bonnes nouvelles sur la vaccination, sur la baisse des cas. Puis là, des fois, quand je suis dans un schéma de pensée trop négatif, là, on s'en sortira jamais. Ben, je m'en vais relire ça, puis ça me donne un peu d'espoir.
J'adore ça!
Il faut permettre cet espoir-là.
C'est très bon. Écoute, on devrait suggérer à nos collègues de Québecor, que ce soit au Journal de Montréal ou 24 heures, d'avoir chaque jour dans le journal une section bonne nouvelle. Comme ça, les gens pourront naviguer à travers toutes les mauvaises nouvelles, mais juste à avoir une section pour se remonter le moral, les chiffres de vaccination, comme hier. Ce matin, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé qu'hier, on avait battu un record. Je pense qu'on a vacciné dans la même journée 102 ou 103 000 personnes. Alors, on va s'accrocher aux bonnes nouvelles. Élisabeth, je te remercie vraiment pour cette entrevue, puis aussi pour ce texte. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Quand on est tout seul, puis on se désole, quand on se compare, ben on se console en se disant, bon, ben je suis pas toute seule dans ce bateau-là. Je rappelle que le titre de ton texte s'intitule « Hey, quand t'étais ma patronne, je pense que tu m'aurais fait corriger ça, cette phrase-là. Le titre de ton texte, c'est « J'avais honte, mais ça finit bien, promis, je vous encourage à aller lire ça sur le site de 24 heures. » Merci beaucoup, Élisabeth, puis bonne chance pour la suite des choses.
Merci beaucoup, Sophie. Je veux juste prendre encore un peu de ton temps pour rectifier quelque chose. Je suis maintenant employée du 24 heures et pas du Journal de Montréal. Je trouve ça important de le dire parce qu'on a des projets extraordinaires au 24 heures. Fait que j'encourage tout le monde à aller sur notre site web.
OK, ben c'est parfait. OK, ben c'est l'information qu'on m'avait donnée. Donc, c'est bien important de le corriger. Merci beaucoup, Élisabeth.
Merci. Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous avez vu les déclarations de François Legault concernant l'immigration, le critère du français. Ben, tout d'un coup, ben, plus c'est important que ça. Les immigrants qu'on fait rentrer au Québec parlent pas français, ben, c'est pas si grave que ça. J'imagine que ça a dû faire bondir le chroniqueur ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, qui en avait, à l'époque où il était au PQ, fait son cheval de bataille, vraiment, l'importance que les immigrants qui arrivent ici parlent français. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sophie.
On en a parlé tellement souvent, toi et moi, puis on se rappelle à l'époque à quel point c'était important pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là de François Legault?
C'est assez particulier parce que donc il nous annonce une réforme importante de la loi 101 qui sera déposée d'ici la fin juin ou la mi-juin. Et puis en même temps, probablement ce qui est la variable la plus importante pour le déclin du français, ils vont dans le mauvais sens. Alors, donc, je résume les épisodes précédents. Depuis 20 ans, on fait entrer des immigrants. C'est passé de 30 000 il y a 20 ans à 55 000, sauf l'an dernier, la pandémie, tout ça. Et la moitié d'entre eux ne parlent pas français au point d'entrée. La moitié d'entre eux ne parlent pas français au point d'entrée. Ça veut dire qu'on a fait entrer 500 000 personnes, un demi-million de personnes, sans leur demander de faire un cours de français d'introduction avant de venir. Ce qu'ils auraient fait, d'ailleurs, quand je parle de ça, là, c'est jamais la faute des immigrants. Les immigrants ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. On leur a pas demandé, alors, donc ils arrivent ici. On sait que la moitié d'entre eux seulement suivent les cours de francisation, la moitié de ceux qui suivent les cours décrochent et seulement 10 à 15% de ceux qui décrochent pas réussissent. Alors, on sait que la francisation des immigrants est un échec depuis 50 ans, peu importe combien d'argent on met là-dedans, ça ne marchera pas, et la seule façon de faire en sorte que ça fonctionne, c'est d'imiter le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, dont la langue, l'anglais, n'est pas en déclin dans le monde, tu ne peux pas être un immigrant, ni même avoir un permis de travail temporaire, si tu ne démontres pas ta connaissance de l'anglais, toi et ton conjoint et ta conjointe, avant d'entrer. Bon, alors ça, c'est la situation. Et comme c'est le principal facteur d'affaiblissement du français, ben, c'est là-dessus qu'il faut d'abord... ça devrait être le centre de la réforme de la loi 101. Monsieur Legault, la dernière fois, c'est-à-dire à l'élection, il a toujours dit que c'est pas important de leur demander du français avant d'entrer, mais il avait dit, dans les 3 ans après leur arrivée, je vais leur faire passer un test, puis s'ils échouent, ils vont devenir des sans-papiers, puis là, le Canada va les reconduire
c'est
à
ridicule.
La frontière. C'était complètement absurde, évidemment. Mais bon, pour l'électeur, ça donnait l'impression qu'ils allaient être quand même très sérieux avec cette question-là. Hey, il est menacé de les expulser. Penses-tu qu'ils vont apprendre le français? Sûrement. Bon. Mais là, il ne menace plus de rien. Les tests ont disparu. Et puis, il dit, finalement, c'est pas un critère, non seulement c'est pas un critère important, mais ça doit pas être le premier critère. Le Parti québécois a déposé une motion toute simple à l'Assemblée nationale cette semaine, disant que ça devait être le premier critère. Il disait pas que ça devait être le seul critère. On est tous d'accord qu'on est mieux avoir des soudeurs que des chômeurs, que des gens non formés. Mais on aimerait avoir des soudeurs qui ont pris un cours d'introduction au français avant de venir. Et donc, ils ont voté contre l'idée que ce soit le premier critère de sélection.
Ce qui est quand même hallucinant pour une province francophone. Excuse-moi de t'interrompre, Jean-François, mais moi, ce que je trouve dans tout ça, c'est que ce qu'on demande aux gens, c'est « Vous voulez venir chez nous? » Ben, je veux dire, essuyez-vous les pieds sur le paillasson avant d'entrer. Le fait de prendre des cours de français ou le fait de démontrer une connaissance du français, c'est quand même un tantinet, un signe d'intérêt pour la culture à laquelle tu as envie de te greffer, au-delà des considérations même de travail, au-delà des considérations d'intégration. C'est juste, je frappe à la porte de chez toi, puis je dis « j'aimerais ça rentrer ». Ben, arrive peut-être avec un petit bouquet de fleurs, montre que tu t'intéresses, t'es même pas capable de dire bonjour quand tu frappes à ma porte. Je trouve ça un peu insultant.
Mais c'est même pas, c'est que ils disent bon, je vais aller chez toi, qu'est-ce que je dois apporter? Et là, on leur dit rien. Ben, ils s'attendaient à penser, tu sais, qu'ils achèteraient du vin français, ils pensaient ça. Mais là, ils font dire rien. Alors, précisément sur la grille de sélection qui a 50 points, il y a 16 des points qui sont dévolus aux Français. Donc, il y en a qui viennent grâce à leur connaissance du français, mais il est tout à fait possible d'avoir suffisamment de points sans parler du tout le français. Alors, en plus, comme tu dis, c'est un signe d'intérêt, mais aussi, c'est une volonté du succès de l'intégration. On leur dit, écoutez, on veut que ce soit un succès, votre intégration ici. Une compétence essentielle, c'est le français. Prenez-la, voici la liste des cours que vous pouvez prendre dans votre région. Et, je ne sais pas si tu le sais, Sophie, mais depuis plusieurs années, il y a un programme au ministère de l'Immigration du Québec qui, si tu réussis ton cours de français à l'étranger, on te le rembourse. On te le rembourse. Bon, alors c'est quand même extraordinaire. Bon.
Ben oui.
Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, les libéraux, récemment, dans leurs 27 propositions, ils ont dit... Parce qu'ils cherchent toujours des façons de réduire les critères de français. Ils disent, ben, si vous allez en Gaspésie ou en région, on pourrait réduire le niveau d'exigence. Et là-dessus, je dis, oui, j'ai pas de problème. Si tu es un boulanger qui parle pas français, qui s'installe à Gaspé, en dedans de 2 mois, tu vas le parler. Ça, c'est pas un problème. Si 85% de nos immigrants allaient dans des régions massivement francophones, ils seraient intégrés rapidement. Mais les 85% viennent à Montréal où le français est optionnel. Faut dire la réalité, là.
Ben, totalement.
À Montréal, le français est optionnel. Alors, faire venir des gens sans une connaissance du français vérifiée, c'est courir le risque et c'est être extrêmement imprudent. Mais même, même pour l'exemple de Gaspé, je sais que je parle trop longtemps, mais.
Non, ça va.
Il y avait une excellente entrevue sur cette question-là à Radio-Canada il y a quelques temps, peut-être l'an dernier, où on voyait une femme colombienne qui était justement dans le Bas-Saint-Laurent et qui disait « Moi, je suis une femme extrêmement autonome, je fais mes affaires, mais comme quand je suis arrivée, je parlais pas français, c'était son mari qui était l'immigrant principal, ça m'a pris 2 ans avant de redevenir autonome dans ma communauté. J'étais complètement dépendant de mon mari qui, lui, parlait français. Ah. » Et là, on se dit, ben, vois-tu le service qu'on aurait rendu à cette dame en lui demandant de faire des cours d'introduction au français avant de venir, elle serait devenue plus autonome et plus égale à son mari dès son arrivée.
Oui, et puis des fois, c'est le mari par rapport à la femme, des fois, c'est la femme par rapport au mari, peu importe, mais et c'est ça que ça fait, parler une langue. Ça veut dire que tu peux te dépatouiller à travers les officines gouvernementales, ça veut dire que tu peux avoir un contact avec les autres humains qui habitent, qui vivent autour de toi, c'est quand même la base. Écoute, j'en parlais cette semaine avec Paul Saint-Pierre Plamondon, quand on parle de la campagne de vaccination, on s'inquiète parce qu'il y a certaines poches, il y a certains quartiers à Montréal où les taux de vaccination sont très faibles. On parle de 20 % ou 25 % auprès de la population qui y a droit. Et donc, il y a des brigades qui s'en vont dans certains quartiers pour convaincre les gens de se faire vacciner. Et on se rend compte que c'est pas parce que les gens sont réticents, c'est que dans certains cas, les gens ne sont même pas au courant qu'il y a une campagne de vaccination parce que, tiens-toi bien, Jean-François, ces gens-là ne parlent ni français ni anglais.
Mm-hmm. Oui, oui. Mais il y a des bulles. Il y a des bulles culturelles. Et puis, avec Internet, puis les satellites, là, c'est pas récent, il y a des gens qui vivent de l'aube au couchant dans une langue tierce et qui écoutent les nouvelles de leur pays d'origine. Et ça existe.
Oui. Mais ce que je veux dire, Jean-François, c'est que l'exemple que tu donnais tout à l'heure de cette dame qui n'était pas autonome, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on a des gens au Québec qui ne parlent aucune des deux langues officielles du Canada, c'est un problème de santé publique. Donc c'est pas anecdotique de savoir qu'il y a des gens qui parlent pas la langue. C'est ça que je voulais dire. C'était une longue introduction pour dire que ça peut même avoir des conséquences sur ta santé et la santé de la communauté, parce que si tu te fais pas vacciner, ben c'est tout le monde qui en paye le prix. Quand on parle de ces questions-là, Jean-François, c'est indéniable que on est toujours obligé de mettre des gants blancs. De marcher sur des œufs, tourner notre langue cette fois dans la bouche, parce que dès qu'on parle d'immigration, tu vois, même toi tout à l'heure, t'as dû prendre la peine de dire c'est pas la faute des immigrants, bien sûr. C'est que dès qu'on parle d'immigration, dès qu'on parle de baisser les seuils d'immigration, dès qu'on parle d'imposer quoi que ce soit à des immigrants, on se fait traiter de xénophobe. Et moi, je rêve du jour où au Québec, on va pouvoir avoir une discussion intelligente sur l'immigration, sans qu'il y a des gens qui nous lancent cette insulte-là à la face, de se faire traiter de xénophobe, alors
ça
que...
Ça n'arrivera pas, Sophie.
Non.
Ça n'arrivera pas. Non.
Mais c'est tannant.
Toi, ça fait partie de l'environnement politique. Alors,
oui, mais rappelle-toi la phrase de François Legault, en prendre moins, mais en prendre soin. Mais même ça, il s'est trouvé des gens pour dire... pour critiquer François Legault avec cette phrase-là. Pourtant, on comprenait tous ce que ça voulait dire.
Il y en aura toujours. De toute façon, il y a même des positions. Bon, il y a des positions qui sont désagréables, qui sont des procès d'intention, mais il y a même des positions qui sont des positions de conviction, par exemple. Il y a des gens qui disent l'immigration, ça ne devrait pas exister en ce sens que la porte devrait être ouverte à tous. On fait partie, puis ils disent ça pour le Québec, le Canada, l'Europe, les États-Unis, on fait partie des pays les plus riches au monde. On devrait avoir une politique de frontières ouvertes, les frontières devraient pas exister, etc. On peut même avoir ce débat-là, puis il y a des arguments pour et des arguments contre. Mais effectivement, moi, écoute, à mon âge, j'ai tiré la conclusion que l'important, c'était, tu avances dans tes propositions, tu fais tes arguments, il y a des gens qui sont tolérants, il y a des gens qui sont intolérants. Tu t'occupes pas des intolérants, puis tu discutes avec ceux qui sont d'accord avec la discussion, puis tu avances. Il faut relativiser ces choses-là. Moi, je suis moins insulté qu'avant sur Twitter parce que dès que quelqu'un m'insulte, je le bloque et puis c'est très sain. C'est comme ça.
Bon. Alors, je vais essayer d'être aussi zen que toi, Jean-François. Je vais essayer d'être... oui, c'est ça. Je vais essayer. Ça ne veut pas dire que je vais réussir. Mais je trouve ça très triste que ce genre de discussion-là... Et je regarde la façon dont les gens ont réagi, par exemple, à cette déclaration de François Legault en disant « Ouais, ben là, tu sais, si vous voulez juste prendre des critères économiques, eh ben là, quelqu'un comme Kim Thuy aurait pas pu venir. » Kim Thuy est venu au Québec comme réfugié. Quand on parle de baisser les seuils d'immigration, on ne vise pas, évidemment, les réfugiés pour des raisons humanitaires. Les gens, Jean-François, mélangent tout. Ça devient difficile d'avoir des discussions éclairées quand les gens mélangent tout.
Oui. Mais, par exemple, dans cette proposition que je porte depuis un certain temps de faire comme le Royaume-Uni, il y a des gens qui disent « Oui, mais Carlos Letao, par exemple, lui, ses parents ne seraient pas entrés avec une politique, et puis ils sont entrés comme immigrants économiques, il n'aurait pas pu, ce à quoi je réponds, je ne connais pas vos parents, mais sûrement qu'ils auraient pris leur cours de français avant de venir. »
Mais ben, oui.
On n'est pas sûr de ça. Non, on n'est pas sûr. Maintenant, les gens qui lèvent la main pour dire, ben regardez, moi, j'ai pas eu cet obstacle et pourtant je suis francophone, je dis, ben bravo, mais ne participent jamais à notre discussion ceux qui sont pas francophones, ceux qui sont anglophones, ceux qui n'ont pas fait la transition vers le français, qui sont la moitié de tous les immigrants qui, à la fin, vont vers la communauté anglophone, ben, ils participent pas à nos discussions. Donc, l'anecdotique de ceux qui ont fait la transition vers le français, c'est comme si on prenait la saison du Canadien et qu'on ne comptait que les matchs qu'on a gagnés puis qu'on comptait pas les matchs qu'on a perdus. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est le solde qui est important, c'est la moyenne
qui
est importante.
Ben oui, puis c'est le résultat final, c'est QFD. T'as tout à fait raison. Puis écoute, je veux dire, je parlais tout à l'heure des gens évidemment qui ne parlent ni l'anglais ni le français, mais écoute, c'est très facile aussi de se promener tout simplement à Montréal et de voir le nombre de commerces où on repartira pas ce débat-là, mais où les gens sont incapables, sont même insultés que tu demandes à être à ce qu'on te parle en français. C'est vraiment désastreux. Écoute, on va prendre une toute petite minute pour parler de Nadine Giraud qui laisse tomber les Écossais qui ont des velléités. Bon, alors explique-nous c'est quoi le dossier puis ce que t'en penses.
Alors donc, les Écossais donc sont en élection. Ils veulent avoir un nouveau référendum sur l'indépendance. Et Boris Johnson dit qu'il donnera pas l'aval du gouvernement britannique pour l'organisation du référendum, ce qui ferait que cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où il y avait eu une entente, donc l'Écosse devrait faire ça unilatéralement. La question qui a été posée hier par Joël Arsenault, qui s'occupe des dossiers internationaux pour le Parti québécois, à Madame Giraud, ils étaient en crédit, c'est est-ce que vous appuyez le droit à l'autodétermination des Écossais?
Bonne question.
Oui, c'est une très bonne question. Et puis, Mme Giraud a beaucoup patiné pour dire finalement, ben, je reconnais le principe du droit des peuples à l'autodétermination.
Ben là, j'espère.
Très bien. Ouais. Alors, est-ce que vous le reconnaissez pour l'Écosse? Et puis là, j'ai eu un échange Twitter avec elle, très, très diplomatique. Et elle dit, ben, si je le reconnais en principe, je le reconnais pour tous. Alors, bon, elle ne veut pas mettre dans une même phrase qu'elle le reconnaît pour l'Écosse. Et je comprends que on a des relations très importantes avec le Royaume-Uni. Pour l'instant, le conflit est seulement latent. Alors, c'est un peu prématuré pour le Québec de prendre position dans un conflit qui n'est pas encore ouvert. T'sais, on prie pour dire, on a des amis à Londres, puis on a des amis en Écosse pour qu'ils s'entendent. Et on se dit, ben, on espère qu'ils vont s'entendre, comme ça on se brouillera avec personne. Je dis, écoutez, on a eu exactement le cas avec la France face à nous. On n'était même pas en référendum et la France a dit, la France va accompagner le Québec dans ses choix. Alors, c'est un signal pour dire, ben nous, on verra ce qui se passera, puis on présume de rien, mais s'il y a un problème, nous, c'est le Québec qu'on choisit. Ouais. Alors, donc, je lui conseille de dire, ben le Québec accompagnera le peuple écossais dans ses choix. C'est une façon... c'est une façon claire, mais quand même assez
diplomatique.
Diplomatique, pas trop dure envers Londres, de dire ben nous, voilà, c'est ça. Mais s'ils choisissent de rester dans le Royaume-Uni, c'est parfait. S'ils s'entendent avec Londres, c'est parfait. C'est pas à nous à décider, mais c'est simplement de dire aux Écossais, c'est vous qui décidez, c'est pas Londres qui décide pour vous.
Oui, elle aurait pu aussi reprendre une formule célèbre, non indifférence, non ingérence. Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, Sophie.
Comprendront ceux qui veulent. Merci beaucoup, Jean-François. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Jean-François Lisée, donc chroniqueur, auteur, journaliste et ex-chef du PQ qui est avec nous deux fois par semaine à Cube Radio.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
On l'a appris hier, une deuxième poursuite envers Gilbert Rozon. Cette fois-ci, c'est une poursuite donc au civil, 1,7 million. C'est la réalisatrice bien connue Lynn Charlebois qui l'accuse de l'avoir violée il y a plusieurs années de ça. On va parler de tout ça et des conséquences de cette deuxième poursuite avec Maître François-David Bernier qui est avocat, animateur de l'émission Avocat à la barre, ici même à Cube Radio. Bonjour Maître Bernier, comment allez-vous? Comment vas-tu?
Salut Sophie, ça va très bien.
Écoute, je trouve que c'est très important de se parler de ce dossier-là parce que ça soulève un tas de questions. Première question, on sait qu'il y avait eu une demande de recours collectif qui avait été refusée au motif que les différentes personnes qui voulaient avoir ce recours collectif contre Gilbert Rozon, les circonstances de chacune des causes étaient trop différentes pour que le recours puisse être collectif. Est-ce que on va voir chacune des femmes qui voulaient faire un recours collectif individuellement, est-ce qu'elles vont toutes faire une poursuite au civil contre Gilbert Rozon, théoriquement?
Théoriquement, ça se pourrait parce que c'est ça qui est arrivé. On avait choisi un véhicule juridique qu'on appelle, qui était l'action collective. On appelle aussi le recours collectif. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a un représentant, il y a même une représentante, et que toutes les personnes dans la même situation sont incluses automatiquement dans ce recours. Donc, ça évitait plusieurs poursuites comme on commence à voir naître en ce moment. Et il y avait un procès qui réglait le sort de plusieurs personnes. Mais comme tu l'as bien dit, le tribunal à la cour d'appel, ça avait été accepté en cour supérieure. Parce que c'est quand même du droit nouveau. On a beaucoup vu ça avec les congrégations religieuses, mais pour un individu, c'est quand même nouveau. Et là, on a déterminé que le groupe n'était pas assez homogène. Il y avait des situations différentes. Mm-hmm. Et là, quand la cour d'appel dit ça, ben ça a mis fin à leur recours. Et là, c'est pour ça qu'on voit des recours individuels séparés. C'est sûr que ça va embourber un peu plus les tribunaux. Comme on dit, ça va coûter plus cher aussi. Puis est-ce qu'ils vont tous poursuivre? Ben, est-ce qu'ils ont tous les moyens? C'est ça le problème. Parce que l'accès à la justice pour une personne, la classe moyenne, et on le sait, c'est très difficile ce genre de poursuite-là. Si il n'y a pas de règlement, ça peut facilement, dépendamment du taux de l'avocat, coûter entre 50 000, ça peut aller des fois à 100 000 d'honoraires. À moins que l'avocat décide de prendre ça à pourcentage, donc il prend un risque et là, il y a un pourcentage s'il y a gain de cause. Mais c'est plus rare à trouver.
C'est plus rare à trouver, mais c'est ça, mais il y a des avocats qui le font. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, prenons un exemple, la personne poursuit un individu X, dans ce cas-ci Gilbert Rozon, pour 1,7 million. Mettons qu'il est trouvé coupable, mettons qu'en effet la cour le condamne à payer des dommages, l'avocat peut dire « bon ben moi je vais prendre 170 000, je vais prendre 10% du montant ». Sauf que si le procès finit sans condamnation, ben à ce moment-là, l'avocat se retrouve avec zéro sou, mais en même temps peut-être que c'est bon aussi pour sa pratique, hein, ça peut être pour sa visibilité. Ben
effectivement, ça, des plus jeunes avocats qui veulent être visibles, avoir des clients, ça peut être bon aussi. Il y en a qui peuvent le faire. Et tu disais 10 %, la réalité, quand un avocat prend un dossier à pourcentage, c'est plus près du 30 % d'habitude.
Hey boy, OK, j'étais trop...
Oui. Oh boy. Trop modeste. Mais donc, ça peut être très... Moi, à mon cabinet, j'en ai déjà pris. J'ai vu des avocats en prendre. C'est un peu ça, c'est la loterie des avocats. T'sais. Tu prends un bon dossier puis tu réussis à faire un bon montant. Ben, il y en a qui se sont mis, comme excuse l'expression, sur la map à cause de ce genre de dossier-là. Donc oui, ça se peut que ça ait été pris à pourcentage aussi. Puis c'est sûr que c'est des dossiers très médiatisés, fait que ça fait une belle visibilité. Là.
OK. Dans quelle mesure, François David, quand on sait que, bon, le DPCP, après enquête de la police, le DPCP avait décidé de ne pas déposer d'accusation, dans quelle mesure ça peut entraver une cause, quand quelqu'un poursuit au civil, quand au criminel, il n'y a pas d'accusation qui ont été déposées, est-ce que ça peut nuire à la cause quand tu vas au civil?
Non, ça nuit pas du tout. C'est
non?
pas
okay.
Non, ça nuit pas. Si par contre il y a une condamnation criminelle, ça peut aider. C'est ça la différence. Mais au civil, on regarde pas en disant ah, il a pas été condamné au criminel, donc ça peut pas fonctionner. Non, c'est tout autre recours. On prouve la même chose, hein. C'est une agression. Et donc, c'est ça qu'on voit ça. Ils décrivent exactement ce qui s'est passé. On doit prouver l'agression autant au civil qu'au criminel, mais c'est ce fardeau de preuve-là. Là. Au criminel, il est plus élevé parce que c'est hors de tout doute raisonnable à cause de la présomption d'innocence. Le juge, c'est pas la parole l'un contre l'autre. Il y a toute une démarche à suivre qui est balisée par la jurisprudence, un arrêt clé R contre WD qui dit, ben il faut qu'il, on l'a entendu dans le procès criminel de Gilbert Rozon, est-ce qu'il croit à l'accusé? Ben s'il croit, il faut qu'il l'acquitte, présomption d'innocence. S'il croit pas, est-ce que son témoignage soulève un doute raisonnable? Ben si oui, ben on l'acquitte. Puis même s'il croit pas avant tout, ben est-ce que l'ensemble de la preuve soulève ce doute raisonnable-là, dont le témoignage de la victime? Ben là, si il y a quand même un doute raisonnable, il l'acquitte. T'sais, c'est plus rigoureux. Tandis que au civil, quand on dit c'est la parole d'un contre l'autre, au civil, c'est plus vrai, parce que on se rappelle, les juges au civil, c'est des spécialistes de la crédibilité. Là. Quand t'es devant eux, là, ils t'analysent, puis ils regardent c'est qui est c'est plus vraisemblable. Et là, tu sais, c'est la prépondérance des preuves. Au civil, c'est la fameuse balance. Fait que si t'es plus crédible, t'as une meilleure preuve que le défendeur qui on dit qu'il a agressé, puis que le tribunal te croit, ben là. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus un peu le fardeau est plus facile, sans être facile, là, mais plus facile qu'au criminel, parce que c'est ça, c'est cette balance-là. Là. Donc, c'est pour ça on voit que le DPCP n'a pas pris les causes, les a pas portées devant les tribunaux, parce que bon, il n'y avait pas cette croyance-là là, de et que hors de tout doute raisonnable, il pourrait, mais ça ne veut pas dire qu'au civil, que le juge ne croira pas la version de la victime. Là.
Absolument, de la présumée victime. Tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais, parce que j'aime ça faire du droit 101 avec toi, parce que je pense que de façon générale, dans la société québécoise, on a un manque de littératie juridique, on est un peu des analphabètes du droit. Donc, quand tu disais tout à l'heure que le fardeau de la preuve est beaucoup plus lourd au criminel qu'au civil, c'est aussi, et même essentiellement, je dirais, parce que la peine est si grave, c'est-à-dire que ce qui est en jeu au criminel, c'est une peine de prison. Donc, il peut pas y avoir pire que d'enlever la liberté à quelqu'un. Quand tu poursuis au civil, dans ce cas-ci, elle poursuit pour 1,7 million, ben, je veux dire, la punition est monétaire, mais on va pas priver éventuellement Gilbert Rozon de sa liberté. Donc, c'est pour ça que le fardeau de la preuve est moindre.
En plein ça, au criminel, c'est sévère.
Voilà. Donc, vu que la peine est plus sévère, il faut que les critères pour en arriver à cette peine-là doivent être plus élevés. Mais c'est quelque chose que 99% des gens comprennent pas, François David.
Oui, ben je veux dire, même il y a des juristes qui comprennent pas non plus. C'est très particulier. Ben puis je veux dire, sur tout ça, il y aura un débat de société, j'imagine, à un moment donné, parce que en ce moment, tu sais, il faut comprendre, oui, au criminel, c'est très sévère, parce que c'est l'histoire. Hein. Il y a eu des abus, il y a eu des gens emprisonnés à tort. On a tous oublié ça, parce que maintenant, notre liberté, on l'a acquise, là, je veux dire, c'est à part maintenant, on s'en rend peut-être compte durant la pandémie, mais il n'y a rien de pire qu'emprisonner quelqu'un qui n'a rien fait. Là, je veux dire, faut se rappeler de ça. Donc, une rigueur qui a été établie par un système rigoureux, puis c'est pour ça qu'il y a cette présomption d'innocence-là, puis que le fardeau est plus lourd. Sauf que à l'inverse, tu sais, il y a quand même, tu sais, quand je pense à l'affaire Rozon, puis aux poursuites civiles, tu sais, on s'en est déjà parlé, il y a tout un problème par rapport aux personnalités qui sont connues, parce que c'est rendu que même des juges, moi, dans Gilbert Rozon, je croyais pas tant à ça, parce que c'est rendu que même le DPCP, les juges ont un genre de discours disant, ben on acquitte la personne, mais ça veut pas dire que les événements sont pas arrivés à cause du fardeau de la preuve. Moi, je trouve que ce dernier bout-là, malgré un fardeau de la preuve qui est plus lourd, plus compliqué, il faut pas non plus... Quelqu'un qui est acquitté, pour moi, il est quand même acquitté. Il faut pas dire que c'est arrivé quand même.
C'est ça. Ou tu peux pas laisser entendre que peut-être... Oui, c'est ça, parce que à ce moment-là, tu laisses planer le doute. Donc, tu dis, il est acquitté, mais il y a quand même une espèce de petit nuage gris qui le suit. Puis je trouve ça important de continuer quand même à parler de la présomption d'innocence, François-David. Parce que c'est un principe qui s'applique pour tous les individus, qu'on leur aime la face ou qu'on leur aime pas la face. Et aussi parce que il y a beaucoup de gens, je lis des textes, des analyses, des gens qui placent ça comme si à chaque fois qu'on défend la présomption d'innocence, c'est comme si on enlevait des droits aux présumées victimes. Mais on peut avoir énormément de compassion et d'empathie et de bienveillance pour les présumées victimes et quand même se battre bec et ongles pour la présomption d'innocence. C'est pas un contre l'autre.
Ben oui, c'est en plein ça. C'est quoi la valeur des valeurs dans la vie, dans tout? Si cette valeur-là n'est pas là, il n'y a rien qui fonctionne, mais c'est l'équilibre. Et en judiciaire, en juridique, si tu n'as pas d'équilibre, ça ne fonctionne pas. Si tu es trop dans un principe, donc il faut trouver l'équilibre. Oui, il y a un système, il y a des gens qui peuvent... le système est là pour innocenter des gens qui pourraient être accusés ou pour condamner des gens qui ont commis des gestes qui sont pas corrects, mais il faut pas non plus tomber dans l'excès. Puis oui, des fois, on tombe dans l'excès à vouloir dire « ben c'est arrivé quand même ». Et pour ça, il y a quand même le système est bien fait, parce qu'on le voit dans l'affaire Rozon. Au criminel, bon, pas de condamnation, mais on a encore une présumée victime, encore un recours au civil qui peut, elle peut dédommager, comme tu l'as dit, pas par un emprisonnement de son agresseur, mais par un paiement. Là, il y en a qui vont dire, ah, les victimes, ils veulent de l'argent. Non, c'est que quand tu as vécu une injustice, ce que tu veux, c'est que justice soit faite. Puis des fois, c'est quand ton agresseur prend le chemin de la prison. Puis des fois, ben c'est quand il te donne un montant qu'il va mettre du baume sur la plaie, puis qui une sorte de reconnaissance de culpabilité. Mais encore une fois, il faut comprendre que ces systèmes-là sont en place.
Rapidement.
Mais une fois qu'ils sont faits, faut pas garder cette idée-là que la personne l'a faite quand même. Moi, c'est là que j'ai un problème.
Ben tout à fait. Ben je suis très 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 contente qu'on ait fait cette mise au point là aujourd'hui. T'es toujours bon. C'est toujours bon.
Ah, merci, Sophie.
Maître François-David Bernier. Ah, ben non, écoute, c'est un travail d'équipe. Écoute, on se rend bon l'un l'autre. Maître François-David Bernier, qui est avocat, vous pouvez l'entendre, évidemment, sur les ondes de Cube Radio à Avocat à la barre. Merci beaucoup, Maître Bernier.
Merci. Bonne journée. Bye-bye.
Merci. Merci, c'était très important, très intéressant comme discussion. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci d'avoir été là toute la semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, un privilège et un plaisir en même temps. Merci à Jean-François Roy, à la mise en onde, William Boivin à la recherche. Et on se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine.
Cube Radio.